je m'appelle Vincent, je suis de Nantes et je suis chasseur de petits gibiers, chasseur d'oiseaux migrateurs. Et j'ai écouté votre émission La Terre au Carré, mais un certain nombre de points n'ont absolument pas été abordés, à savoir ce que font les fédérations des chasseurs et les chasseurs eux-mêmes bénévolement, bien évidemment, pour entretenir la nature, notamment lorsqu'on laisse un milieu se faire envahir par une plante invasive. On sait très bien que ce milieu-là meurt. Or, les chasseurs, en entretenant les territoires, contribuent à préserver cette biodiversité qui concerne les périodes de non-chasse. Bonne journée à vous et puis j'espère à très vite.
Ben, bonjour Mathieu. Donc, ici Anna de Sartrouville. Pour moi, toute mise à mort d'animaux ou d'êtres humains est une barbarie. Même la mise à mort d'animaux élevés en cercle familial et mis à mort par des méthodes traditionnelles avant Noël, comme ça existait avant dans les campagnes, est une barbarie. J'ai entendu crier des cochons, ça pleure comme un enfant. Alors bien sûr, hein, nous les êtres humains, nous aimons en général la viande, mais ça reste avant tout une barbarie. Merci pour cette émission.
Bonjour Mathieu de Bressuire. La réaction qui m'a fait sourire était celle de Mathieu Vidard et Camille Cronier quand la question de manger de la marmotte leur a été présentée. Peut-être est-ce seulement mon interprétation, mais j'ai senti une sorte de dégoût à l'idée de manger de la marmotte. De mon point de vue, c'est une réaction assez urbaine, pour ne pas dire bobo. Pour ma part, je suis fils de paysan, et depuis que je suis minot, j'ai appris à tuer et à ranger les poules, les canards, les lapins, les poissons. Plus tard, j'ai aussi participé à la tuerie de cochons ou de moutons. Et s'il y a un mérite que je reconnais à certains chasseurs, c'est de préparer et de consommer leur propre chasse. Si les anti-chasses sont végétariens, je peux comprendre le rejet de la chasse en général. Mais pour ceux qui consomment régulièrement de la viande, voire tous les jours, dites-vous que votre comportement alimentaire est bien plus nocif pour l'environnement et la société que les mauvaises pratiques dans la chasse. Et si demain on autorisait à manger de la viande seulement ceux qui, au moins une fois dans leur vie, ont tué et préparé un animal pour le manger, de mon point de vue, ce serait un bien plus grand pas pour l'humanité que d'interdire simplement et totalement la chasse. À bon entendeur, bel après-midi à vous.
Oui, alors c'est encore Yolande de Chaumont-sur-Tarronne. Hein. Ça m'énerve de comparer les chasseurs de Sibérie avec les chasseurs coloniaux, où c'est pratiquement que du gibier d'élevage, ça n'a rien à voir. Ce qui m'énerve aussi, c'est les ruraux. Il y a des ruraux qui ne chassent pas. Hein. Les chasseurs qui chassent en Sologne, c'est que le CAC 40, c'est que des gens qui viennent de Paris, c'est pas du tout des ruraux. Sans compter qu'ils tuent des centaines de sangliers dont ils savent même pas quoi faire. Alors, c'est pas pour les manger, il paraît qu'ils les enterrent. Alors, arrêtez avec cette chasse. Comme disait Marguerite Yourcenar, la chasse endeuille tous mes automnes. Alors, qu'on me parle pas de la ruralité. Ça m'énerve, mais ça m'énerve. Au revoir. Et merci pour vos émissions quand même.
Le répondeur de La Terre au Carré, 01 56 40 45 45.
Depuis plus de 30 ans, les leaders des peuples indigènes du Brésil se battent contre les politiques et les multinationales afin de protéger leurs forêts, contre la déforestation, la construction de barrages et l'agriculture intensive. Un combat de plus en plus difficile à mener face au gouvernement Bolsonaro qui manifeste tout son mépris en direction des peuples autochtones. La semaine prochaine va sortir sur les écrans le film Terra Libre qui raconte 3 décennies de résistance des indigènes pour la protection de la forêt amazonienne et de ceux qui l'habitent. Et bien c'est le thème de notre Terre au Carré. Et pour en parler, nous sommes en studio avec Gert Peter Bruch, Pierre Richard et le cacique Ninawa. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, Arkane Siman, bonjour, puisque c'est vous qui allez assurer la traduction de cet entretien.
Bonjour.
Et puis nous sommes également en ligne avec vous, Bernard Lavillier. Bonjour.
Bonjour tout le monde, bonjour.
Gert Peter Bruch, vous êtes donc le fondateur de Planète Amazon, cette ONG française qui œuvre pour la reconnaissance des droits de la nature. Pierre Richard, vous êtes la voix du film qu'on verra donc la semaine prochaine. Très impliqué, on le verra à titre personnel, auprès du cacique Raoni, qui est un de vos amis. Bernard Lavillier, vous êtes le parrain de Planète Amazon, également membre de l'Alliance des gardiens de Mère Nature. Votre prochain album va sortir le 12 novembre. Et puis cacique Ninawa, vous êtes chef du peuple Unikwi. Vous vivez dans l'Acre, un état de l'Amazonie brésilienne. On va donc se retrouver retrouver dans un instant pour découvrir ce film Terra Libre. Et je signale aux auditeurs que l'émission étant enregistrée cet après-midi, nous ne pourrons pas recevoir vos messages comme d'habitude. Mais elle est là, Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passera au vert à 14h30.
Avec le nombre record de défenseurs de l'environnement assassinés, beaucoup de peuples indigènes, 227 morts l'année dernière, en 2020.
Voilà pour le sommaire de l'émission réalisée par Valérie Ayestara et préparée par Lucie Sarfati avec Leonardo Kahn pour les réseaux sociaux et Rémi Sistiaga à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Notre planète está pedindo socorro. Nós estamos já começando a perder água. Todos os lideranças são ameaçados de morte. Por que isso?
So for me, Rani, it's the symbol of the struggle to save the forests.
O documento da liberdade, da dignidade.
Notre maison.
Oui. Il est mauvais, libre.
Ils sont sur la planète fric. Et quand on est sur la planète fric, on n'est plus sur la planète Terre.
A suspense à cette sorte.
Voilà un extrait de la bande-annonce donc de Terra Libre, le film que vous signez Gert Peter Bruch et qui sera donc dans les salles mercredi prochain. Enfin, hein, j'allais dire.
Oui, enfin.
Quelques rebondissements quand même avec la Covid.
Absolument, oui. C'est la troisième sortie, troisième tentative de sortie. Cette fois-ci, c'est la bonne.
C'est
on
la
pense.
Bonne, voilà. Mercredi prochain, 30 ans d'images depuis le sommet de la Terre à Rio en 1992 hein, pour raconter donc le combat des peuples autochtones du Brésil contre, on le verra, plusieurs rouleaux compresseurs hein, qui d'année en année s'abattent sur la terre de ces indigènes. Comment a démarré l'histoire donc de ce film et votre relation, vous, avec les indigènes du Brésil?
J'ai rencontré Cacique Raoni à 18 ans et j'avais rencontré Sting quelques mois avant. J'étais déjà passionné par les peuples indigènes, ceux d'Amazonie en particulier, je les découvrais, mais quand Sting s'est connecté à ce combat-là, forcément ça m'a parlé et je me suis investi à corps et à cri. J'ai rencontré le cacique à ce moment-là qui m'a happé, on va dire, dans sa cause et tout a commencé comme ça.
C'est quoi un cacique alors pour nos auditeurs qui ne
un cacique,
sauraient
pas c'est un grand chef. C'est comme ça qu'on les appelle au Brésil, c'est comme ça aussi que nous, Planète Amazon, on tient à chaque fois à les citer. Parce que tout le monde appelle par exemple Raoni, mais Raoni, c'est le cacique Raoni.
Voilà. Ouais. Alors ben, on a la chance, hein, Camille, d'avoir un cacique avec nous dans ce studio, cacique Ninawa, on est vraiment extrêmement heureux de vous accueillir. Est-ce que vous pouvez nous décrire peut-être
Nous expliquer, vous avez des plumes tout autour de la tête, vous avez du maquillage sur le visage, vous avez des tatouages sur les bras, des bracelets, des colliers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie tout ça? Les plumes, c'est quoi par exemple?
Muito boa tarde a todos os ouvintes.
Merci. Bon après-midi à tous les auditeurs.
A Matheus Vidar.
A Mathieu Vidar.
E quero agradecer aqui pela oportunidade.
Je voudrais remercier pour l'opportunité.
Também agradecer ao Gert Peter.
Et je remercie aussi Gert.
E ao nosso grande apoiador, nosso grande irmão.
Et un autre grand frère, un acteur si important, Pierre Richard.
Et agradecer a todos que nos dão o seu tempo para ouvir a nossa história.
Et à tous ceux qui consacrent leur temps pour ouvrir notre histoire.
Bon, eu estou aqui a gente chama de meite.
On chame ça de coiffe.
Meite é moite. Confeccionado com a pena da arara vermelha.
C'est avec les plumes d'arara rouge.
E representa a identificação de uma liderança, de um cacique no meu povo.
Et c'est la marque d'un chef dans mon peuple.
Oui.
E essa que a gente chama de canu, que é a pintura.
Esse maquiagem.
Esse Baxuxacá significa sabedoria.
Baxuxacá significa sagesse.
Voilà.
Então, para trazermos as mensagens de sabedoria a todos que estão nos ouvindo.
Pour qu'on apporte un message de sagesse à tous ceux qui nous écoutent.
Et vous êtes donc le grand chef, le cacique Ninawa de ce peuple Unikwi, un groupe ethnique qui compte 8000 personnes, hein, qui sont réparties sur 114 000 hectares. Et on a mis évidemment la photo de ce grand chef sur le compte Instagram de la Terre au Carré. Pierre Richard, racontez-nous, et Bernard Lavilliers, évidemment, je vous poserai la même question dans un instant. Comment vous avez été amené à vous sensibiliser à cette question, Pierre Richard, ce qu'on connaît peut-être moins que Bernard Lavilliers sur la question des peuples autochtones du Brésil?
Parce que j'ai rencontré Gert il y a quelques années, pas si longtemps que ça, 3-4 ans, je ne sais plus. Je ne sais plus pourquoi, mais il m'a dit qu'il essayait de monter un film, Terra Libre, et qu'il n'avait pas d'endroit pour se poser, d'être tranquille. Et je lui ai dit, viens à la maison. Et il est resté comme ça pendant plusieurs mois, peut-être pas 5-6, mais peut-être 2-3, je ne me souviens plus. Et bien sûr, je l'ai mis dans un endroit tranquille pour qu'il puisse travailler. Et puis, de temps en temps, j'allais jeter un œil. Puis j'ai jeté 2 yeux, puis 3 yeux. Et puis j'étais tellement, comment dirais-je, bouleversé par ce que je voyais. Ces images atroces de crimes. C'était éradication de la forêt de l'Amazonie, mais c'était éradication même des gens. On voyait des indigènes se faire tuer à bout portant. Et je signale que ça continue. Mm-hmm. Non, parce qu'on pourrait dire oui, mais c'est à 2-3 ans. Encore il y a 3 jours, deux autochtones, deux indigènes se sont fait tuer par des chercheurs d'or. Parce que finalement, ils veulent planter du soja, donc foutez le camp, les chercheurs d'or foutaient le camp. Bref, le peuple qui habite là depuis des siècles, ça me rappelait l'Amérique du Nord, parce que j'étais déjà concerné quand même par les génocides des autochtones d'Amérique du Nord. Et je me suis retrouvé comme ça, totalement investi petit à petit, mais à force de voir ces images. Et ben voilà, puis j'ai continué.
Ouais.
Et puis, évidemment, du coup, il faut élargir le problème. Il n'y a pas que l'Amazonie. L'Amazonie, c'est une sorte de symbole, mais les forêts malaisiennes, les forêts africaines, parce qu'il ne faut pas croire que l'Amazonie est la seule victime de cette déforestation. Donc ça, j'ai appris ça aussi. Et puis j'ai appris, les gardiens de Mère Nature ont fini par se liguer, essayer de s'associer pour dire au peuple, je parle au peuple de la Terre, je ne parle pas qu'au peuple brésilien, au peuple de la Terre, il faut faire quelque chose. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à lire les articles du GIEC pour s'en rendre compte, ou bien les quelques articles de scientifiques. Et donc, j'ai bien compris que la COP21, j'ai d'ailleurs le privilège...
Vous y étiez, et on le voit dans le documentaire d'ailleurs.
J'ai eu le privilège que Raoni ait dormi chez moi pendant... La COP21, ça a été des grandes paroles, des grands gestes ostentatoires.
Et des rendez-vous manqués.
Des rendez-vous manqués, parce qu'on le savait bien d'avance. Et puis ça continue, 20, 21, 22, 26, enfin bref.
Bernard Lavilliers, on connaît évidemment votre engagement et votre passion depuis longtemps pour l'Amérique du Sud, la condition des peuples autochtones, puisque le film raconte 30 années au fond de combat. Vous, votre regard sur ces 3 décennies, c'est quoi finalement pour nous emmener jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé selon vous?
Oh, il s'est passé beaucoup de choses. Moi, je connais le Brésil depuis que j'ai 20 ans. Donc, évidemment, j'étais routier là-bas, donc je me suis très vite intéressé aux origines des peuples brésiliens, qui la plupart du temps n'intéressent personne au Brésil, hein, les Indiens, les autochtones. Donc j'ai sillonné le Brésil énormément, et puis à une époque, j'ai connu Raoni, moi je suis allé le voir dans son village, à Metuctir, mais à une époque je suis allé même à la Serra Pelada, à la grande mine d'or qu'il y a dans le Pará, sur le fleuve Araguaia, et là, alors là, c'était incroyable, 70 000 hommes qui creusent, dont la plupart ne sont évidemment pas des Indiens, sont des gens de Piaoui, ou même des peuples qui viennent de Colombie, enfin surtout des flingueurs qui viennent de Colombie. Cette mine était énorme, colossale. Elle a été petit à petit contrôlée par les militaires, donc par l'État brésilien, ce qui a évité les morts. Mais j'avais déjà remarqué, entendu dire, écouté, lu là-bas, sur place, tout ce qui se passait dans les plans quinquennaux, les plans de distribution des terres. En général, on donnait des terres qui appartenaient pas à l'État, à personne. Elles appartenaient aux Indiens. On a beaucoup donné de terres à des cultivateurs dans les plans quinquennaux politiquement organisés par l'État central depuis très longtemps. Donc, il suffisait de défricher pour être chez soi. Donc, moi, je me suis pas mal révolté là-dessus. J'ai écrit, j'ai chanté des chansons, j'ai rencontré plein de gens. Donc, voilà, j'en suis là. Et il y a longtemps que je connais Gert. Et il s'est tout de suite intéressé à cette histoire. Alors j'ai suivi sa démarche. Effectivement, je fais partie du début. Et je continue, comme Pierre, à soutenir cette histoire qui me semble invraisemblable.
Oui.
Parce que pas grand-chose, les choses n'ont pas tellement changé depuis 30 ans, justement.
On a justement une question sur Instagram de Diane qui nous demande, sont-ils écoutés, Pierre Richard ou Gert Peter Busch? Est-ce que vous êtes écoutés? Est-ce que les choses avancent?
Et au Brésil en particulier, est-ce que la population est sensibilisée à la question des peuples autochtones?
Sont-ils écoutés? Écoutez, on revient d'un sommet, là, le congrès de la nature de l'UICN à Marseille.
Ouais.
C'est simple, les leaders de l'Alliance ont été mis de côté, ont été écartés. On s'en est d'ailleurs plaint auprès des instances de l'UICN en disant que c'était assez scandaleux. Ils ont organisé un sommet virtuel et aucun des grands leaders de l'Alliance n'était invité. Non, ils sont très difficilement écoutés. On est très inquiet, par exemple, pour la COP26 qui va se passer à Glasgow dans quelques semaines,
oui.
Où beaucoup de leaders indigènes appellent à la repousser parce qu'ils ne pourront pas venir, tout simplement, et il est hors de question que les négociations aient lieu sans eux. Par exemple. Donc, je dirais que ils sont écoutés par le public au moins.
Ouais.
Par les instances, non. Il y a beaucoup de travail à faire.
Mais justement, Cacique Ninawa, est-ce que les Brésiliens des grandes villes brésiliennes s'intéressent à la condition de vos peuples autochtones ou pas du tout?
Sim, uma boa parte dos brasileiros estão acompanham, apoiam.
Une porém, bonne partie des Brésiliens appuient.
Porém, não tem um grande poder. Político.
Mas não pode pôr política.
E um dos motivos de a gente poder, de eu estar aqui hoje em Paris.
C'est une des raisons pour laquelle je suis à Paris.
É para fortalecer essa aliança entre os povos indígenas e os apoiadores das causas indígenas do mundo inteiro, principalmente os franceses.
C'est pour renforcer les liens entre les indigènes et ceux qui appuient la cause indigène dans le monde.
Porque agora tem projeto de lei no Congresso que é muito perigoso, que quer destruir o governo brasileiro quer entregar para as indústrias predatórias a Amazônia para a exploração
Parce
predatória.
Il y a des lois maintenant dans le Parlement brésilien. Dans lequel le gouvernement brésilien veut céder les terres indigènes à la prédation industrielle.
Et la PEC 215, hein, cette loi qui est vraiment au cœur aussi du reportage de guerre.
Qui mute, c'est comme le coronavirus, ça mute tout le temps ces lois.
Ouais. Une question justement de Sanou qui demande pourquoi le gouvernement brésilien a besoin de tant de territoires.
Na verdade, o governo brasileiro, ele está precisando de tanta terra porque está fazendo o acordo do Mercosul com a União Europeia.
Il a besoin des terres en raison de l'accord du Mercosur qu'il fait avec l'Europe notamment.
Et il précise de terres pour continuer à explorer beaucoup plus encore.
Il a besoin de terres pour faire encore une exploration encore plus grande.
Et l'exploration, c'est pour des entreprises internationales, non par le propre gouvernement brésilien.
Et l'exploitation, c'est par des entreprises internationales et non pas par des entreprises brésiliennes.
On va écouter la voix du président brésilien Bolsonaro. Bernard Lévier, vous pourrez commenter ce qu'on va entendre d'ailleurs. C'est d'un cynisme absolu et c'était en septembre 2019 à l'occasion d'un discours devant les chefs d'État du monde entier à l'ONU.
Nous voulons que tout le monde puisse connaître le Brésil, et en particulier notre Amazonie, dans toute son immensité et sa beauté naturelle. Elle n'est ni dévastée, ni consumée par le feu, comme le prétendent les médias de façon mensongère. Malheureusement, quelques personnes de l'intérieur et de l'extérieur du Brésil, soutenues par des ONG, persiste à traiter et à maintenir nos Indiens comme de véritables hommes des cavernes. La vision d'un leader indigène n'est pas représentative de celle de tous les Indiens brésiliens. Très souvent, quelques-uns de ces leaders, tels le cacique Raoni, sont utilisés comme des marionnettes par des gouvernements étrangers dans leur guerre de l'information pour faire prospérer leurs intérêts en Amazonie.
Bernard Lavillier, comment vous réagissez quand vous entendez ce type de discours de la part du président brésilien?
C'est un discours d'un cynisme absolu, parce qu'il est en train de dire qu'on raconte que ça ne brûle pas. Alors c'est... On a toutes les preuves, quand vous regarderez le film, vous comprendrez. Et ça fait des années que ça dure, il n'y a pas que Bolsonaro. Hein. Bolsonaro, c'est le plus vindicatif. Il dit qu'on est des espions, finalement, on fait de la désinformation. Ce n'est pas du tout de la désinformation. Alors évidemment... il n'a pas dit que ça comme connerie. Il a aussi dit que c'était ingouvernable un pays où il y avait les blacks qui étaient flemmards ou alors corrompus et que les Indiens étaient trop peu nombreux pour occuper un aussi vaste territoire. Voilà. Donc, je veux dire, Bolsonaro, c'est une sorte de fasciste un peu caché par une république bananière qui est devenue le Brésil, une démocratie, moins le quart. Donc, je dirais que c'est vraiment, au fond du fond, c'est un autocrate absolu. Mais moi, la question que je me pose, qui est également aidée, tout le monde autour de votre table le connaît, d'où sort ce Bolsonaro? Parce que c'était une sorte de député un peu inconnu, un ancien militaire. Ça s'entend bien, d'ailleurs, qu'il soit un ancien militaire quand il parle.
Ouais.
Mais je me suis toujours demandé d'où sort ce Bolsonaro.
Cacique Ninawa, vous avez la réponse ou pas, vous?
É muito impressionante porque o mundo realmente, nem o Brasil conhece o Bolsonaro.
Ni le Brésil ne connaît, ni le monde, ni le Brésil ne connaissent Bolsonaro, c'est très impressionnant.
Mas ele já era político há mais de 30 anos no Brasil.
Mais il y a plus de 30 ans qu'il est un homme politique.
Como um deputado federal.
comme en tant que député fédéral.
Não tem um projeto de lei aprovado por ele.
Il n'y a pas un seul projet de loi en 30 ans approuvé par lui.
E é o político mais corrupto que está sendo investigado ele, os filhos todos são políticos corruptos.
Aussi bien lui que ses enfants sont les plus corrompus et ils sont sous enquête.
Allez, on se retrouve dans un instant et on va écouter Le Cœur du Monde, Bernard Lavilliers. C'est le premier extrait D'accord. de votre nouvel album qui va sortir le 12 novembre prochain. Et on se retrouve dans un instant pour parler donc des peuples indigènes du Brésil.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Brûler sur ses désirs brûler. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent attendons le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner, 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 enchaîner. Après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés.
Cœur du Monde, Bernard Lavilliers. L'album sort le 12 novembre prochain. C'est un album, alors, non pas issu de votre expérience brésilienne, mais argentine, là, plutôt, en l'occurrence, hein, c'est ça?
Voilà, je suis resté. J'avais gardé l'Argentine pour là, je connais bien l'Amérique latine, hein, du Nord, enfin le Mexique, jusqu'à la pointe maintenant d'Argentine, hein, au fond du Chili. Donc, mais j'avais gardé l'Argentine, je ne sais pas pourquoi. Je connaissais plein d'Argentins, donc je suis resté 3 mois. J'ai écrit pas mal de chansons qui sont dans cet album, qui ne racontent pas cette histoire en permanence, bien sûr. Mais j'étais très inspiré d'être ailleurs, déjà, et ensuite de considérer l'Argentine d'une autre manière, parce que quand je suis arrivé, là maintenant, l'inflation est galopante, c'est hallucinant ce qui arrive au pesos argentin. Hein. Donc, quand je dis dans cette chanson, la première, là, que les guerres économiques sont toujours à la base des guerres sanglantes, après, on met le manteau du nationalisme, on met le manteau de la religion sur ces guerres plus tard. Mais au départ, toutes les guerres sont économiques. Hein. Donc, je me disais, la guerre économique, il va y avoir l'histoire de la soif, de l'eau, il va y avoir l'histoire de l'oxygène, mais il y a déjà. et même des minerais, parce que si Bolsonaro dit qu'on va faire du tourisme en Amazon, il y a pas mal de minerais en Amazon, c'est très intéressant. Les grands barrages ont été faits parce qu'il y avait de la bauxite sous la forêt vierge, hein, vous le savez sans doute. Voilà, donc c'est une chanson assez sombre, j'en conviens, mais c'est ma sensibilité par rapport à ça.
Ouais. Alors, dans le documentaire Terra Libre qui va sortir mercredi prochain, il y a le titre Gentilhomme de Fortune qui était sorti en 86 sur l'album Voleur de Feu. Et on va en écouter un extrait parce que vous l'avez réarrangé justement pour le documentaire.
Le soleil est au fond du trou qui suinte l'eau et la vermine. On est des milliers dans la mine, accrochés à ce rêve fou. Le silence des jungles a recouvert les corps des Indiens massacrés aux frontières colombiennes.
Voilà, Bernard Lavillier, avec un réarrangement donc que vous lui avez demandé, Gert Peter Bruch, hein, c'est ça?
Oui, bien sûr. En plus, cette chanson m'accompagne depuis longtemps. Elle fait le lien avec beaucoup de choses. On parle beaucoup de l'or dans le film aussi. Enfin, on parle de tellement de choses, mais on parle parce que c'est l'or, c'est aussi la Guyane française, comme vous le savez très bien. Donc, très préoccupant, bien sûr.
Pierre Richard, donc votre voix accompagne ce film. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant, tout simplement, aujourd'hui, l'art, le cinéma, les films, les documentaires, pour sensibiliser? Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Est-ce que vous, vous pensez que vous faites tout ce que vous pouvez, évidemment, à votre niveau, pour essayer de faire avancer les choses?
Non, je ne crois pas que ce soit suffisant. Je pense que d'abord, il y a des choses qui me paraissent malheureusement irréversibles. Mais ce n'est pas une raison pour se dire, puisque c'est irréversible, ne faisons rien. Donc, Gert a raison, et les gardiens de la mère Terre en raison de réagir, parce que c'est pas encore une fois une raison pour se dire bon ben c'est foutu, mais franchement c'est urgent et c'est grave.
Vous êtes une figure en France, évidemment, vous êtes très connu, vous avez pu avoir accès par exemple à des présidents de la République pour essayer de leur parler plus précisément des situations.
Écoutez, franchement, je ne crois pas à aucun président, quel qu'il soit, de tous les pays. C'est les présidents sont des gérants. C'est vrai, parler à des lobbies, il faudrait parler à des grandes oligarchies. Les présidents de quelque lobby que ce soit sont au service des grands groupes. Je l'ai bien vu quand, justement, Hollande, qui n'est pas... Je l'ai bien vu quand il m'a dit, oui, c'est regrettable, mais j'ai bien compris qu'il pouvait rien faire. Il y a EDF, il y a tout. Alors moi, je vais quoi? Je vais aller voir le directeur de EDF. C'est pour ça que, d'ailleurs, de COP en COP, si je puis dire, chez tous les présidents de n'importe quel pays, ça ne sert à rien.
À rien? Les COP ne servent
jusqu'ici,
à rien.
Jusqu'ici. Ça ne sert pas à grand-chose.
Vous parlez d'EDF, Pierre Richard, parce qu'on le voit justement dans le film, les intérêts français au Brésil.
C'est parce que je l'ai vu dans son film et que je
qu'il
argumente avec des... quelques paroles en l'air, il s'est renseigné. Hein.
Les intérêts français au Brésil sont de plus en plus énormes. Donc il y a une espèce de schizophrénie où à la fois il y a nos chefs d'État qui sympathisent avec ces chefs qui les reçoivent, mais qui, entre parenthèses, ne veulent pas reconnaître les droits des peuples autochtones et signer la convention 169 de l'OIT en ce qui concerne la Guyane, c'est important. Donc il y a de la posture, et je dirais presque à un moment, il y a de l'imposture. C'est vrai que quand on rencontre avec Pierre, on rencontre François Hollande et qu'il nous dit « Oui, je vais permettre au chef Raoni, au nom de l'Alliance, de parler devant la plénière, devant les chefs d'État, et qu'il ne le fait pas
».
Donc ils font des promesses qu'ils peuvent pas tenir. Donc c'est ça qui est embêtant. Et en même temps, ces chefs attendent des résultats concrets. Et nous, on est là pour essayer de les aider à avoir ces résultats-là.
Allez, on écoute un extrait du documentaire Terra Libre, donc dans les salles la semaine prochaine, avec votre voix, Pierre Richard.
La population pourra toujours attendre les prétendus bénéfices de Belo Monte. Les prédateurs, eux, sont déjà à l'affût. La multinationale canadienne Belo Sun Mining attend l'assèchement d'une partie de la Grande Boucle pour installer, tout près des terres indigènes, la plus grande mine d'or du Brésil. Le sanctuaire naturel serait alors enseveli sous près d'1 milliard de tonnes de déchets contaminés. À l'endroit dit, la compagnie commence à faire pression sur les riverains.
Então aqui está uma faixa que todos aqui vão ser atingidos, todos vão ser retirados desse local. E eles, a Belo Santo está pedindo para que as pessoas vão até no escritório para se informarem.
Si le projet de Belo Santo voit le jour, des chercheurs d'or se répondront en fourmilière dans la forêt. Un petit air de déjà-vu.
Voilà, Gert Peter Bruges, ben, effectivement, hein, tout est déjà dans le film, et malheureusement, on connaît l'issue. Hein.
Oui, après, il y a cette alliance qui existe, c'est quand même qu'il y a de l'espoir, sinon ouais. on s'ouvre tous les veines. Donc.
Bernard Midier, c'est avant de vous quitter, parce que je sais que vous allez devoir partir, c'est quoi cette alliance des gardiens de Mère Nature, précisément, à laquelle vous appartenez vous-même hein?
Exact, avec Pierre aussi d'ailleurs.
Oui.
Et je demande à ce qu'on nous rejoigne, que les gens soient de plus en plus nombreux, parce qu'il y en a plein qui y pensent, mais c'est pas mal de signer, et d'être présent, et d'essayer de faire quelque chose. Parce qu'effectivement, autrement, comme dit Pierre, moi, ça fait 30 ans que ça dure, et j'ai rarement fait un disque où il n'y avait pas, je parlais pas plus ou moins directement, peut-être avec des métaphores, c'est possible, de cette histoire. Les gardiens de Mère Nature, ça peut être vous, c'est moi, ce sont les classiques des peuples. Je pense que les enfants sont très concernés, parce que on va leur laisser une planète dans un état un peu particulier. Hein. Donc je pense que ça pourrait être très intéressant. Pour que les enfants très jeunes soient conscients et que les adolescents, souvent, s'intéressent à ça, avec le grand idéalisme que, normalement, l'adolescence provoque avec ses belles hormones.
Et bon, on va vous quitter sur une histoire d'hormones, alors, Bernard Lavillier, puisque vous devez partir à l'Alliance des gardiens de Mère Nature. On en reparlera dans un instant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bernard Lavillier. Votre album sort le 12 novembre prochain et le premier extrait tourne déjà sur France Inter. Et puis, vous serez à l'Olympia en 2022. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci,
à bientôt.
France Inter. La Terre au carré.
Et Camille passe au vert comme tous les jours, Camille Cronier.
Avec un record aujourd'hui qui n'a rien de sportif, il ne s'agit pas non plus d'un record de température, mais d'un record macabre. 227 défenseurs de l'environnement assassinés en 2020. Ça fait plus de 4 morts par semaine en moyenne. C'est l'ONG Global Witness, ONG britannique, qui fait ce décompte chaque année et le voit donc augmenter. Avec une raison particulière pour 2020, ce que m'a expliqué le porte-parole Louis Wilson.
Il y avait les conditions parfaites pour une explosion de violence. Vous avez la pandémie qui avait forcé les gens à être chez eux. Pour beaucoup de personnes, ça c'est dangereux. On a des contacts dans la Colombie qui nous ont dit qu'ils se sentaient beaucoup moins en sécurité parce qu'ils devaient être chez eux et donc les gens savaient où ils étaient.
Et s'il parle de la Colombie, c'est parce que c'est le pays où il y a eu le plus d'assassinats. 65 activistes tués, dont un tiers appartenait à des peuples autochtones.
Les peuples autochtones se trouvent souvent vivants sur ou près de quelque chose qui est voulu par l'industrie. Et ça, c'est un risque.
Célia Umenza de la tribu Naza dans la région colombienne du Cauca a échappé à 3 tentatives d'assassinat.
Là-bas, les guérillos ont fait de moi une cible et les paramilitaires m'ont dit que j'étais une guérilla parce que je venais des montagnes.
Elle est l'une des leaders de la lutte contre la déforestation, contre l'agriculture intensive, de canne à sucre en particulier, et l'exploitation minière illégale, ingrédient indissociable des assassinats selon Global Witness.
L'exploitation forestière, l'exploitation minière et agro-industrie à grande échelle, là où ça continue, on va voir de la violence.
Pourquoi ? Parce que tous ces défenseurs viennent gêner, freiner des enjeux industriels, économiques et gouvernementaux majeurs.
Ils dérangent le développement économique, ils défendent la planète et ils défendent les intérêts de leur communauté, mais aussi du communauté globale. Et donc, ils se trouvent dans une position impossible.
Aux Philippines, l'un des pays qui compte le plus d'assassinats après la Colombie donc et le Mexique, les activistes sont considérés comme des ennemis. J'ai joint sur place Angelo Guillen, qui est avocat de l'Union nationale des peuples.
Toutes nos organisations, groupes environnementaux et de défense des droits de l'homme, sont considérées comme rebelles. Nous sommes traités comme des ennemis d'État.
Et voilà ce qui est arrivé à Angelo le 3 mars dernier.
J'ai été agressé, poignardé au visage, dans le cou, sur les épaules. J'ai été attaqué par 2 hommes avec 2 complices. Ils m'attendaient alors que je rentrais chez moi. Mais j'ai réussi à survivre.
3 semaines d'hôpital dans la foulée, sachant que 9 personnes avaient été massacrées en décembre. Des actes dont les commanditaires sont difficiles à identifier, mais liés aux industries ou aux États, ça ne fait aucun doute pour l'avocat Angelo Guillen.
Nous pensons que les attaques sont perpétrées soit par les forces de sécurité, soit par des personnes qui agissent pour le gouvernement.
Confirmation du porte-parole de l'ONG Global Witness, Louis Wilson.
La plupart des assassins identifiés sont liés à l'État, mais la plupart des attaques, il n'y a pas de responsabilité et il n'y a pas même des arrestations.
Impunité presque totale, hein, une étude parue il y a 2 ans parlait de 10% de condamnations depuis 2002, mais ni les menaces ni cette impunité ne font reculer les groupes.
We are still in the fight together.
Nous restons ensemble dans la lutte, dit Angelo aux Philippines. Même discours de Celia Umenza en Colombie.
Je crois que notre héritage est plus que le mien, le nôtre, est de toujours dire que la lutte et la résistance doivent continuer et que c'est seulement de cette façon que nous pourrons survivre en tant que peuple. C'est seulement de cette façon que nous pouvons préserver l'identité culturelle. C'est seulement de cette façon que nous pouvons dire que l'environnement est quelque chose de si important pour l'être humain que c'est la vie de l'être humain.
Quitte donc à y laisser sa peau, hein, et d'après Global Witness, tant que les lois ne changeront pas avec une coopération internationale des États et des industries, il n'y a aucune raison que les assassinats s'arrêtent.
Et c'était Camille Passauvert à réécouter sur franceinter.fr.
Cacique Ninawa, le Brésil est 4e en nombre d'assassinats en 2020, avec une 20aine de morts activistes et donc beaucoup de membres de peuples indigènes. Est-ce que vous, dans votre peuple, est-ce que dans votre environnement, vous avez eu connaissance d'attaques, d'agressions ou d'assassinats?
Ah, sim, são, na verdade, o Brasil tem sofrido esse ataque, né, esses assassinatos dos lideranças. E temos lideranças bem recentes que foram assassinadas.
Oui, il est vrai que nous avons des chefs très récemment qui ont été assassinés.
Inclusive, um atentado que aconteceu em Roraima, na comunidade dos Yanomami, feito pelos garimpeiros.
Il y a un attaque qui s'est déroulé dans le territoire des Yanomami, fait par des chercheurs d'or.
Onde assassinaram a sangue frio uma pessoa da comunidade.
Où ils ont assassiné à sang froid un membre de la communauté indigène.
E assim acontece todos os dias, essas pessoas ficam impunes.
Et il n'y a aucun châtiment à ces personnes, c'est récurrent.
Pierre-Richard, on va vous laisser car vous devez aussi nous quitter. Vous tournez bientôt, je crois.
Dans 3 semaines.
Voilà, ce sera votre prochain film qui sortira, on aura le temps d'en reparler hein, en 2022. En attendant, la lutte pour aider les indigènes d'Amazonie continue.
Oui, il faut.
Et vous êtes toujours là pour les soutenir.
Bien sûr.
On l'entend avec votre voix qui est dans ce documentaire Terra Libre. Merci beaucoup Pierre-Richard.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli.
On poursuit cette Terre au carré dans un instant avec donc entre autres le cacique et le réalisateur de ce film Terra Libre. C'était Big Red Machine.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Dans les solutions que nous leur proposons, il y a toujours une arrière-pensée. Vendre des droits à polluer, c'est forcément pas honnête. On voit bien d'ailleurs que ça ne marche pas. On comprend l'intérêt des peuples forestiers, des ethnies forestières. Ce sont les seuls êtres humains qui aient jamais réussi à exploiter la forêt sans la détruire et sans lui faire perdre son caractère primaire. Nous autres, occidentaux, européens, d'origine européenne, on n'est pas capable de faire ça. C'est donc pour nous des modèles.
Voilà la voix importante du biologiste Francis Allais, grand spécialiste de la forêt primaire qu'on entend dans votre film Terra Libre, Gerd Peter Bruch. Vous êtes toujours avec nous, avec également le cacique Ninawa. C'est très important ce qu'il dit justement sur votre savoir, cacique Ninawa, sur votre connaissance de la forêt. Et aujourd'hui, au cœur de cette crise de la biodiversité, vous avez un rôle essentiel qu'il faut absolument pousser, mettre en valeur, parce que c'est vous qui la connaissez, cette forêt.
C'est nice. Somos guardiões da floresta.
Nós somos os guardiões da floresta.
E nós sempre colocamos à disposição os saberes tradicionais do nosso povo, que é o único saber que realmente sabe proteger a floresta.
Nós colocamos à disposição nosso savoir, dont o seul savoir que nós avons, c'est celui de proteger la forêt.
Por isso que nós precisamos de aliados, de apoiadores nessa luta.
C'est pour ça que nous avons besoin des gens qui nous appuient dans cette lutte.
E foi por isso que surgiu a Aliança dos Guardiões da Mãe Natureza.
Voici pourquoi nous avons fondé l'Alliance des Gardiens des Mères Nature.
Gerd Peter Bruch, la financiarisation du carbone, parce que ça devient une marchandise aussi, cette forêt. C'est tout le problème, et c'est aussi le combat du cacique, hein, je crois, au Brésil. Hein.
Oui, absolument, et c'est pour ça que c'était intéressant que Francis Allais parle des fausses solutions, quelque part, oui. qui font perdre un temps fou, en plus, avec des gens conscients, je veux dire, des entreprises conscientes, des États conscients que ça va pas aider sur le réchauffement climatique. Et donc Ninawa, en effet, est un des leaders très courageux, il n'est pas le seul, il y en a beaucoup dans l'Alliance, qui osent dire que ce marché carbone est un colonialisme vert, que les énergies vertes aussi ne sont pas toutes vertes, et c'est aussi une forme de colonisation, comme les grands barrages, par exemple. Donc c'est un combat très important, et on est très heureux que des députés européens commencent à s'y intéresser, et vont faire sans doute des rapports, c'est ce qu'ils nous ont promis, en tout cas sur la question.
Cacique Ninawa, il y a combien de personnes aujourd'hui dans votre peuple Unikwi? Et surtout, quelles sont les conséquences concrètes d'éventuellement la déforestation ou de grands projets sur vos territoires?
Nós somos uma população de quase 17 mil pessoas.
Nous sommes presque 17 000.
Nós estamos em 117 aldeias.
Nous sommes présents dans 117 villages.
E os maiores impactos que nós estamos sofrendo com as mudanças climáticas.
E o mais grande impacto que nós sofremos desse changement.
Agora, no ano de 2021, teve a maior alagação, a enchente.
Il y a eu la plus grande inondation cette année.
Que deixou muita gente sem alimento, sem água potável, com enfermidade.
Que a laissé beaucoup de gens sans nourriture et sans eau potable.
E o agronegócio que vem do sul do país está chegando na Amazônia, plantando soja, criando, fazendo agropecuária.
E o agrobusiness que vem do sul do Brasil estão entrando em várias terras para fazer a produção de bœuf.
E o estado do Acre é um dos maiores exploradores de madeira, os maiores madeireiros estão tirando as árvores para exportar.
E no outro estado da federação, o Acre, eles são presentes os maiores exploradores de bois. Por exportação.
Isso está impactando diretamente o meu povo e outros povos indígenas da Amazônia.
E isso impacta diretamente mon peuple et d'autres peuples de l'Amazonie.
Et Gerd-Peter Brusch, on voit aussi que bien tous ces industriels sont aussi aux avant-postes politiques, parce qu'ils ont aussi un rôle très très important au sein même du gouvernement, et que c'est tout le problème d'ailleurs.
Hein. C'est le problème majeur, c'est qu'aujourd'hui ces industriels qui gagnent des milliards sur le dos de la population brésilienne et qui n'apportent rien de, pour le citoyen brésilien lambda, sont en effet, ils ont toutes les rênes du pouvoir. Ouais. Donc la démocratie n'existe plus, elle est entre leurs mains en fait.
On va écouter la voix d'une femme indigène révoltée que Camille va nous traduire.
Mon nom est Valdelis Verón. Je suis de l'ethnie Kiowa, de l'état du Mato Grosso do Sul. Nous sommes plus de 45 000 Kiowa Guarani dans le Mato Grosso do Sul. Nous essayons de reprendre ce qui un jour nous a été arraché.
Aquilo que dia foi retirado, dia foi tomado, arrancado de
nos terres traditionnelles. Les grands propriétaires terriens disent qu'on veut tout l'état du Mato Grosso do Sul. Mais c'est faux, c'est de l'ignorance. On veut juste ce morceau de terre qui est sacré pour nous. Le 16 octobre 2001, nous avons été expulsés et jetés sur le bord de la route. Ma famille a été totalement massacrée.
Voilà la voix de cette femme qu'on entend aussi, bien sûr, dans votre film Terra Libre. Cacique Ninawa, moi j'avais une question à vous poser. Quand on entend ces témoignages avec ces massacres au sein même de vos familles, au sein même de votre peuple, est-ce que vous vivez dans une peur permanente ou est-ce que finalement le combat vous donne la force de dépasser ce sentiment de peur ?
Na verdade, hoje, os povos indígenas do Brasil...
En réalité, aujourd'hui, les peuples indigènes du Brésil...
Não tem mais medo de lutar.
Não plus peur de rien.
Cada liderança nossa que é tombada.
Chacun de nous qui tombe.
Nos dá mais desejo de justiça.
Nous donne encore plus de volonté d'avoir de justice.
E assim nós vivemos no Brasil há 521 anos.
Nous sommes au Brésil déjà depuis 521 ans.
Resistindo para poder a gente existir.
Et nous résistons pour pouvoir exister.
La semaine dernière, à Marseille, au Congrès mondial de la nature, on en parlait tout à l'heure, une motion a été adoptée pour protéger 80% de l'Amazonie d'ici 2030. C'est une demande des peuples indigènes. Est-ce que vous pensez que ces 80% de forêts amazoniennes pourront être effectivement protégées un jour ou ce sera que du discours ?
Da forma que está sendo discutida hoje.
De la manière qu'on discute de cela aujourd'hui.
Nós não estamos acreditando mais.
Nous ne croyons plus rien.
Porque não estão ouvindo as pessoas certas.
Ils ne sont pas en train d'écouter les bonnes personnes, les personnes correctes.
São acordos políticos que eles mesmos, os políticos, não cumprem.
Ce sont des accords politiques que entre eux-mêmes ils ne respectent pas.
Então a gente precisa avançar muito mais do que apenas um acordo.
Nous devons aller plus loin qu'un simple accord.
Alors ça veut dire quoi, aller plus loin qu'un simple accord, Gerd-Peter Brusch? Est-ce qu'il faut radicaliser les actions, par exemple?
Déjà, l'Alliance appelle à la sanctuarisation des forêts, parce que c'est 80% de protection de l'Amazonie. Est-ce que c'est dans le marché carbone? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Parce que l'Alliance, et il pourrait en parler, le cacique Ninawa, est contre la marchandisation de la nature. Parce que ça va à l'encontre de la spiritualité indigène. Et dans la réalité, ça nous protège tous. J'ai pas répondu exactement à votre question, mais...
Et justement, est-ce qu'il faut aller plus loin dans les actions pour protéger? Parce que est-ce que cette alliance des gardiens mères de nature, elle sera suffisante?
Il faut aller plus loin, et notamment, ce qui est très intéressant en ce moment, et ce qui est en train de se produire, c'est que Greta Thunberg, par exemple, parle beaucoup des leaders indigènes.
Elle a posté une vidéo il y a deux jours.
Hein. Elle a posté une vidéo il y a deux jours, et nous avons, on va dire, ces lieutenants, si j'ose dire, de plusieurs pays qui sont déjà rentrés dans l'Alliance et qui commencent à s'associer aux actions du cacique Ninawa et d'autres, qui a lancé une pétition en début d'année avec ces jeunes-là. Ouais. Donc Camille Etienne, par exemple, en France, a participé à cette vidéo.
Une question sur franceinter.fr de Julie qui vous demande, Cacique Ninawa, ce que vous pensez des discours aujourd'hui en France et dans les sociétés occidentales sur ce qu'on appelle la décroissance. Il y a des intérêts aujourd'hui français, notamment en Amazonie. Est-ce que vous pensez que les sociétés occidentales doivent consommer moins, puisque finalement tout ça a des conséquences sur votre vie à vous ?
Il
y a beaucoup de gens qui pensent de manière différente.
São várias visões diferentes.
Il y a plusieurs visions différentes.
Nem sempre para nós aquilo que é desenvolvimento, que é progresso.
C'est pas toujours que ce que pour nous c'est du progrès.
É para nós temos o mesmo entendimento.
Et que nous on comprenne ça de la même manière.
Porque o capital, o mundo do capital.
Parce que le monde du capital.
Para poder ele crescer no lucro.
Pour qu'il puisse avoir de plus en plus de profits.
Ele precisa acabar com a natureza.
Il doit en finir avec la nature.
E nós temos uma visão de economia, de qualidade de vida diferente.
Et nous avons une vision de l'économie, d'une qualité de vie complètement différente.
Porque a floresta, ela é capaz de dar o sustento para todos os seres humanos do planeta sem precisar destruir.
Parce que la forêt est capable de nourrir la totalité de la planète sans avoir besoin d'être détruite.
Isso não significa que nós somos totalmente, temos que parar o mundo, não é isso.
Cela ne signifie pas que nous devons arrêter le monde.
O que significa é que da maneira que está sendo feita, não é a maneira correta, que está acabando com tudo.
Ça signifie que la façon dont on procède n'est pas bien et que c'est en train d'en finir avec tout.
Nós temos hoje foco de trabalho que é convidar a juventude.
Nous avons aujourd'hui comme objectif d'inviter la jeunesse.
Por isso que eu lancei aqui uma petição na França convidando os jovens a se juntar nessa luta.
C'est pour ça que j'ai lancé un appel en demandant aux jeunes de s'associer à notre lutte.
E também queremos diálogo com o Parlamento Europeu.
Et nous voulons aussi un dialogue avec le Parlement européen.
Há uma semana atrás teve início aonde 10 deputados se colocaram à disposição para somar junto nessa luta.
Et il y a quelques jours 10 députés européens se sont proposés de s'associer à cette lutte.
Estiveram aqui os meus irmãos, outras lideranças do México, da América do Norte.
Et d'autres collègues à moi du Mexique et d'autres régions ont été présents il y a quelques jours.
Gerd Peter Brugge, c'est peut-être ça le plus réjouissant au fond quand on voit ces trois décennies qui sont décrites dans le film depuis le sommet de Rio, c'est de voir que la société quand même a beaucoup changé et que l'appréciation même par exemple de la forêt amazonienne est un élément qui s'est beaucoup rapproché de nous, on le disait, on voit plus ça de façon très lointaine. Et la jeunesse va jouer un rôle très très important dans les prochaines années pour ces peuples indigènes.
Ah oui, et je dirais que c'est assez formidable parce que ça fait 30 ans, on le dit depuis le début de cette émission, ça fait 30 ans, le Cacique Raoni nous appelait il y a 30 ans et il parlait des générations futures. Aujourd'hui, les générations qu'il mentionnait, il y en a certains qui n'étaient pas nés et qui ont 20 ans aujourd'hui, qui demandent des comptes. Et leur voix est très puissante. Et donc le fait qu'ils s'allient aujourd'hui avec cette nouvelle garde, c'est très inspirant et je pense que ça peut donner des choses très intéressantes dans les mois qui viennent parce qu'ils vont s'associer aussi dans les négociations qui vont avoir lieu, comme 26 et autres. Et croyez-moi, ils vont se faire entendre.
Et Terra Libre, il y aura peut-être un deuxième volet plus tard parce qu'il y a tellement d'actualités, tellement de changements dans nos sociétés aujourd'hui. Et on vous remercie infiniment d'être venu nous en parler. Cacique Ninawa, merci beaucoup. Bon retour au Brésil parce que j'imagine que vous avez quand même hâte de rentrer chez vous, non? Parce que Paris, c'est bien, mais la forêt amazonienne, c'est mieux, non?
Sempre a gente tem o desejo de voltar.
On a toujours envie de retourner chez soi.
Mas eu tenho que lutar hoje.
Mais je suis obligé de lutter.
Porque eu tenho filho que está com 8 dias que nasceu.
Parce que j'ai mon fils qui a 8 jours d'âge.
Então, me dá mais coragem para poder vir aqui, sentir saudade de casa, mas continuar a luta, não pode parar a luta.
Me donne du courage, même si j'ai na nostalgia. Pour pouvoir lutter.
Et agradeço a oportunidade. Convido a todos a ser guardião da floresta.
Et je vous invite à vous tous à être des gardiens de la forêt.
Très bien, et on comprend que vous ayez envie de rentrer pour voir votre petit garçon. Merci beaucoup, Gerd Peter Brugge. Donc Terra Libre sort mercredi prochain sur les écrans français. Et puis toujours le soutien possible des auditeurs qui nous écoutent pour Alliance des gardiens de Mère Nature.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Gardiens de la forêt.
Merci beaucoup, à très bientôt. À demain, Camille.
À demain, bon après-midi.
Dans un instant, Fabrice Drouel avec Affaires Sensibles.